France Culture.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Enguerrand Armanet.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous revenez de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan en Chine. Nous sommes dans la vallée du fleuve jaune, dans le centre-est du pays. C'est ici que le champion des voitures électriques BYD, Build Your Dream, a implanté une partie de son complexe industriel, une gigafactory, une usine géante qui a été ouverte en 2022. 500 000 véhicules y ont été produits en 2024. BYD est aujourd'hui un des leaders mondiaux du marché de la voiture électrique. Sa production a dépassé celle de Tesla en 2023. Et alors que le parc automobile chinois s'est déjà largement converti à l'électrique, eh bien c'est vers l'export que se tourne désormais l'entreprise. Avant d'entrer dans l'usine de voitures de BYD, Enguerrand Armanet, il faut prendre le temps de parler de cette ville, Zhengzhou. 16 millions d'habitants, on est loin de la côte, mais la ville est considérée comme stratégique par les industriels. Pourquoi ?
Alors, Zhengzhou, c'est une ville industrielle, déjà, qui s'est énormément développée au début du 20e, qui ensuite était un peu délaissée par le gouvernement, qui revient sur le devant de la scène, finalement, depuis les années 2010. C'est une ville qui, vous l'avez dit, qui est située au centre du pays. Donc, c'est un nœud logistique, finalement, qui est à la croisée des chemins entre deux lignes ferroviaires très importantes en Chine. Et qui a permis justement le développement industriel de la ville. Voilà, cette ville, elle a été dans les plans directeurs du gouvernement chinois. Finalement, le gouvernement chinois dit qu'il mise dessus comme une base industrielle avancée au cœur de la Chine pour produire pour le marché chinois, mais aussi pour le marché international, puisqu'il y a une zone aéroportuaire qui est extrêmement développée et qui est un des nœuds des nouvelles routes de la soie. Voilà, la Air Silk Road, donc la route de la soie aérienne, qui donne lieu à voilà, une activité économique frémissante, on va dire.
Alors, il y a la voiture électrique, on va en parler, mais vous le disiez, c'est une ville industrielle de longue date, ça fait partie d'une stratégie du gouvernement. Quels sont les autres secteurs industriels présents à Zhengzhou ?
Alors, Zhengzhou, finalement, c'est assez connu parce que Foxconn, donc, qui est le principal sous-traitant d'Apple, un sous-traitant taïwanais, fabriquait 70% des iPhones là-bas. Voilà, donc ça a été connu comme l'iPhone City pendant très longtemps.
Alors, ville était surnommée l'iPhone City.
La ville était surnommée l'iPhone City, voilà. Alors, il n'y a pas que Foxconn, il y a aussi plein d'autres constructeurs de téléphones. Finalement, il y a des millions de téléphones qui sont produits là-bas et qui sont exportés vers chez nous via l'aéroport de Zhengzhou, justement. Il y a des industries beaucoup plus lourdes. Il y a l'acier, l'aluminium qui produit énormément. Il y a l'automobile. Alors, il y a BYD qui est un des très gros industriels depuis peu de temps. Mais il y a aussi SAIC, il y a d'autres conglomérats chinois qui sont installés dans la région depuis assez longtemps. L'industrie, elle continue de se développer, mais elle a laissé place, comme dans beaucoup d'autres villes chinoises, au secteur tertiaire. Finalement, les services se sont beaucoup développés. Donc, on dit ville industrielle, mais il faut pas imaginer des cheminées d'usines au milieu de la ville. Pas du tout. Ça ressemble à beaucoup de mégalopoles chinoises. Et ce qui est marquant, par contre, c'est quand on arrive à l'aéroport de Zhengzhou en avion. On voit cette zone aéroportuaire qui est vraiment constituée d'un damier d'industrie. C'est assez impressionnant, quoi. On voit pas tellement de culture, mais vraiment de l'industrie lourde qui s'étale à perte de vue en périphérie de la ville.
Vous voulez dire depuis le ciel, c'est ça?
Depuis le ciel,
dans c'est la géographie de la ville.
Voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé à l'arrivée, donc avant même d'avoir posé le pied en Chine.
Juste encore un mot sur Foxconn, vous le disiez, qui a été l'entreprise responsable de l'assemblage des iPhones, qui s'est implantée à Zhengzhou. Ce sont des centaines de milliers d'emplois, ou plutôt c'était, parce que cette entreprise a décidé de délocaliser récemment une partie de ses activités. Quelles conséquences pour la ville ?
Alors ça, Foxconn, au plus fort, c'était 300 000 emplois. Alors c'est une ville de 16 millions d'habitants, donc il faut remettre ça en perspective. Mais 300 000 emplois, c'était énorme. Alors essentiellement des emplois saisonniers. D'ailleurs, j'ai un confrère du Monde qui a écrit un très bon reportage sur les saisonniers de Foxconn récemment. Donc voilà, il y a l'usine. Ils ont délocalisé une partie en Inde parce que finalement les salaires étaient un peu plus augmentés, donc ça devenait moins rentable pour eux. Puis il y avait des tensions géopolitiques, mais ça reste encore un très gros employeur. Donc voilà, ça n'a pas été 300 000 emplois qui ont foutu le camp, si vous me passez l'expression. Il y a ces emplois qui ont été en fait qui ont pu se ils ont trouvé à travailler ailleurs aussi finalement. Par exemple, quand on est spécialisé dans l'électronique, on travaille chez Foxconn, et ben c'est des compétences qui sont bonnes à prendre dans l'industrie automobile, en particulier électrique, comme BYD qui est un leader technologique sur son secteur et qui a besoin de ce genre de compétences.
Alors donc BYD, je rappelle l'acronyme de Build Your Dream, oui. Le géant de l'automobile électrique a décidé en 2021 d'ouvrir une méga usine à Zhengzhou qui ouvre en 2022. C'est une construction extrêmement rapide. À quoi ressemble cette usine? Est-ce qu'on peut commencer par décrire les dimensions du site?
Alors les dimensions du site, c'est difficile à décrire pour un humain en fait. Parce que on est face à un bâtiment, mais un bâtiment en cache des centaines d'autres derrière, quoi. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça ressemble à une zone industrielle très étendue, sauf qu'elle appartient à un seul industriel. C'est ça qui est marquant. Après, quand on y est, bâtiment par bâtiment, sont des bâtiments immenses, mais j'ai envie de dire qu'ils sont quand même aux normes de l'industrie automobile européenne. Voilà. Après, ce qui est marquant, et c'est quand on regarde les images satellites, on voit l'étendue du site qui aujourd'hui s'étend, enfin, sur je sais plus combien d'hectares exactement. Enfin, c'est un site qui fait à peu près 10 fois en surface d'industrie automobile européenne. Donc c'était très impressionnant. J'ai envie de dire vu du ciel quand on y est. On a du mal à saisir la chose.
Ouais. Environ 1000 hectares.
Oui, c'est ça. Voilà,
vous écrivez dans votre article et sur la cinquantaine de bâtiments du site, vous en visitez deux, ouais. Où se trouvent des chaînes de montage des voitures, et vous décrivez un système très automatisé. Il n'y a pas ou il y a peu d'ouvriers dans cette usine?
Eh bien, finalement, oui, en fait. Mais là encore, on est au standard européen. C'est-à-dire que alors moi, j'avais visité déjà des usines. Et là, la surprise, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y en avait pas tellement. C'est-à-dire que j'ai pas vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Il y avait une chaîne, automatisée, mais encore une fois au standard européen. Et les quelques ouvriers qu'on a vus, finalement, ils étaient sur des tâches qui peuvent pas encore être faites par les machines, à s'occuper des moules pour l'emboutissage des tôles, ou à faire les derniers contrôles de qualité sur les véhicules en bout de chaîne. Donc oui, ça a été assez surprenant. Là, on n'a pas vu énormément d'ouvriers travailler sur place finalement. Voilà. Pourtant, le site emploie près de 60 000 personnes.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, près de 60 000 personnes employées. Quelles informations avez-vous pu obtenir sur leurs conditions de travail, notamment, et sur leur salaire, par exemple?
Alors, BYD a ouvert ses portes à un peu plus de 300 journalistes du monde entier à ce moment-là. Donc,
et c'était nouveau jusqu'à présent, personne n'avait pu
jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore ouvert cette usine-là, qui est la plus grosse de l'industriel, qui n'est pas la seule. Mais qui est la plus grosse de l'industriel. Donc, on n'a pas tellement eu la liberté d'aller discuter avec des ouvriers. Je veux dire, c'était pas prévu dans la visite. Donc, ce qu'on a eu, nous, ce sont les éléments de langage de l'entreprise qui nous parlent de salle de fitness, de possibilité de dormir sur place, d'habiter sur place, si les ouvriers le souhaitent. Mais on n'a pas pu aller, si vous voulez, enquêter. Puis on n'était pas vraiment invité pour ça. Et dans une visite au pas de charge, sur 50 bâtiments, on n'a pu en voir que deux. Déjà, ça nous a pris la matinée. Et puis, il fallait quand même suivre le groupe. Donc, pas du tout évident d'aller tamponner un ouvrier pour lui demander comment il vivait. Surtout qu'on parle pas chinois. Enfin, moi, je parle pas chinois. Donc...
Une visite de presse très contrôlée qui vous a permis de vous de donner un aperçu de l'automatisation, du gigantisme de l'usine. Comment est-ce que vous expliquez cette stratégie des autorités de BYD d'ouvrir tout d'un coup à la presse étrangère, parce qu'il y avait des journalistes du monde entier? Dans quelle stratégie marketing ça s'inscrit?
La stratégie, elle est assez claire. C'est là pour BYD, c'est vraiment la conquête des marchés à l'export. Alors, on peut trouver ça étrange d'ouvrir les portes d'une usine qui est dans les terres et donc qui, par sa situation, est destinée à produire des véhicules pour le marché chinois. Mais en fait, c'est la plus grosse usine. Donc, en termes de marketing, ouvrir les portes de la Gigafactory de BYD aux journalistes du monde entier, ça rentre dans un agenda qui est de se donner beaucoup de visibilité avec des mots forts, quoi. Gigafactory, 1000 hectares, 60 000 employés, c'est des choses qui sont pas du tout anodines. Voilà.
Et alors, comment l'export se fait-il quand on est si loin des côtes, à plus de 1000 km? Vous mentionnez l'aéroport. Est-ce qu'il faut comprendre que l'export aujourd'hui, il se fait par voie aérienne?
Alors non, pas du tout pour les voitures. Vous imaginez que ce serait assez compliqué.
Et très peu rentable.
Et très peu rentable. BYD, il exporte depuis ses sites industriels de la côte. Ouais, il y a Shenzhen qui est un très gros site industriel. Et BYD, l'industriel, a affrété ses propres bateaux pour le faire. Donc l'export part toujours de la mer. Mais... le marché chinois est quand même incontournable, extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel. Donc, le fait d'implanter cette usine dans les terres, c'est vraiment pour s'adresser au marché chinois. Donc, ces véhicules qui seront produits à Zhengzhou, on ne les verra pas en Europe. On verra les mêmes modèles, mais qui seront produits ailleurs sur d'autres sites de BYD.
D'ailleurs, il y a des projets de construction d'usines en Hongrie, en Turquie. Ça fait partie de la stratégie de conquête des marchés à l'international de l'entreprise.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est une question de. Alors, il y a la question des droits de douane européens sur l'automobile électrique, qui serait bon de contourner. Voilà, en construisant sur place. Et puis, il y a d'autres questions réglementaires qui font que c'est plus facile de produire en Europe pour le marché européen aussi.
Si on parle de l'export en Guérand Armanet, c'est parce qu'il faut aussi rappeler que la Chine a pris un virage et a fait un pari très important sur la voiture électrique, mais qu'aujourd'hui, le secteur se retrouve confronté à une concurrence très forte parce que la voiture électrique est aussi largement subventionnée par l'État. Est-ce que ça veut dire que ce géant BYD, qui a une petite vingtaine d'années d'existence, est aujourd'hui dans des difficultés financières un peu paradoxales, à la fois une croissance très forte et en même temps des profits qui diminuent?
La croissance, ça se finance. Il y a des investissements qui sont extrêmement coûteux. On parle du marché européen. Le marché européen, des mots même de Stella Lee, qui est donc la directrice générale du groupe, n'est pas encore profitable pour le groupe. Parce que voilà, le coût de l'acheminement, le coût de la distribution et le coût pour s'implanter sur un marché est extrêmement fort. Donc ça explique en partie les profits qui sont en baisse, mais qui ne changent rien au développement de l'industriel, finalement.
Alors, je reviens peut-être un moment à Chengdu et puis à l'usine et ses employés. Vous disiez que c'était difficile de parler avec les ouvriers, étant donné les conditions de cette visite de presse très encadrée. Mais en dehors de la ville, vous avez rencontré quelques personnes, et notamment un vendeur, Wu, qui vous dit « Travailler pour BYD garantit un meilleur salaire, mais pas une meilleure vie. » Qu'entendait-il par là ?
Il entendait par là que ses amis d'école, donc de Jiangsu, qui eux ont fait le choix de l'industrie, de BYD en particulier, il me parlait de BYD en particulier, mais ce qu'il m'a dit est valable en fait pour l'industrie en général, c'est qu'on peut avoir on a des meilleurs salaires, mais que finalement, l'organisation du travail fait qu'il faut faire des heures supplémentaires pour que cela devienne vraiment profitable. Donc il me disait, voilà, mais moi, mes amis, je les vois plus tellement. J'ai pas fait ce choix-là. Eux, ils ont choisi ça. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas fantasmer les conditions de travail atroces dans l'industrie chinoise. Je pense que ça dépend déjà d'une compagnie à l'autre. Voilà. Et encore une fois, l'usine, elle est quand même assez au standard européen. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même droit du travail. Donc les journées sont sûrement un peu plus longues. Voilà.
Et cette pression à la productivité, elle se retrouve chez les ouvriers, mais aussi chez les ingénieurs, d'après ce que vous en comprenez, parce que les bureaux d'études ont pour objectif de développer très rapidement de nouveaux modèles, et ça se fait en un temps assez record pour le coup.
Oui, bah ça c'est, on a rencontré justement le chef, le concepteur en chef du groupe, et qui nous expliquait que voilà, un nouveau modèle pouvait sortir extrêmement rapidement, enfin dans un délai de 2 ans, on pouvait vraiment sortir un tout nouveau design. Et ça vient pas de nulle part. Les ingénieurs sont mis sous une pression extrême dans ces bureaux d'études, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de tels résultats. Il y avait un cadre d'un grand groupe français qui rentrait de Chine et qui lui avait été époustouflé. Il m'avait dit pas vraiment dans ces mots-là, mais en gros c'est plié. Les gars ont une force de travail telle qu'ils sont capables d'arriver à des rendements du travail qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a chez nous. Voilà, mais ça se fait dans des conditions qui nous pourraient nous paraître pas souhaitables.
Cette productivité, cette pression, elles sont aussi liées à la transformation du marché de la mobilité en Chine. C'est important de rappeler que le virage à l'électrique pour le marché intérieur, il a été pris d'une manière très, très forte. Très concrètement, aujourd'hui, dans une ville comme Jiangsu, 16 millions d'habitants, vous décrivez une ville très calme au niveau sonore. Est-ce qu'il reste des voitures thermiques à Jiangsu?
Alors oui, ça m'a étonné. Bien sûr, il reste des voitures thermiques, mais par exemple, tout le parc de scooters est électrifié. Il y a des vélos, mais qui sont garés. Les pistes cyclables sont occupées exclusivement par des scooters électriques. Bon, ça, c'est très étonnant. Et sur le parc automobile, on a... Alors, c'est pratique pour nous quand on arrive. Il y a des plaques bleues et des plaques vertes. Les plaques vertes sont des voitures électrifiées, donc soit hybrides, soit complètement électriques. Et les plaques bleues sont des voitures thermiques. Des plaques bleues, il y en a quand même de moins en moins. Et le parc électrique, enfin, le parc automobile chinois, il est presque à 50% électrifié aujourd'hui. Et en fait, ça s'entend. Ça s'entend complètement. Et un élément qui m'a marqué, c'est que les plaques bleues, donc les voitures thermiques, sont à de rares exceptions, c'est-à-dire des vieux modèles chinois, des marques japonaises ou occidentales, voilà, qui étaient vraiment les anciennes reines du marché. alors qu'ils sont toujours, Volkswagen est toujours numéro 2 sur le marché automobile chinois. Mais ça c'est vrai que c'est assez marquant dans l'atmosphère de la ville.
Et comment est-ce que BYD essaie justement de s'emparer du prestige qui a longtemps été associé aux marques allemandes, notamment, ou aux voitures de luxe qui pouvaient être acquises par la classe bourgeoise ou moyenne haute chinoise? Comment est-ce que BYD essaye aussi de se positionner sur ce marché pour faire de ces voitures électriques un objet de désir pour les classes bourgeoises?
Ils sortent des modèles premium. Ils ont aussi une marque qui est une marque premium qui s'appelle Denza, où là, voilà, il y a tout ce qui fait que la voiture est vraiment un bijou et presque un achat statutaire parfois, et puis qui répond, voilà, qui se met à des normes technologiques monstrueuses. Il y a des choses qui existent aussi chez nos concurrents. Il y a Valeo qui a développé une technologie pour que la voiture fasse un créneau toute seule. Bon, eux aussi l'ont fait, mais essayent de faire un petit cran au-dessus avec des voitures qui peuvent marcher en crâne, donc se faufiler dans des petites rues. Voilà, ils essaient d'avoir une avance technologique et puis de proposer des produits premium pour le marché chinois, mais à des coûts qui sont aussi un peu plus faibles. Donc en fait, ils arrivent quand même, j'ai l'impression, à parler un peu à tout le monde. Après, ils sont pas tout seuls sur ce marché-là. Hein. Le marché, je vous l'ai dit, est extrêmement concurrentiel. Il y a près d'une centaine de constructeurs en Chine.
Sur l'électrique.
Pas que sur l'électrique, mais bon, les constructeurs qui font du thermique font aussi se mettent aussi à faire l'électrique. Le conglomérat SAIC, par exemple. Et donc en fait, le marché est extrêmement concurrentiel et vous l'avez dit, subventionné. Et alors la particularité, c'est que la concurrence, elle est entre marques, mais elle est aussi entre régions. C'est-à-dire que les régions, par exemple, alors c'est une information qui demanderait à être vérifiée, mais par exemple BYD s'installe à Jiangsu. On peut se poser la question de comment ils ont eu ce terrain, parce que historiquement, la ville, quand elle a commencé à se développer extrêmement fort dans les années 50 avec l'industrie textile, la ville donnait des terrains aux industriels pour que les industriels s'installent. Oui. Donc peut-être que c'est une stratégie qui a encore cours, sans doute, mais il n'y a pas que la ville de Jiangsu et la province de Henan qui pratiquent ça. Toutes les provinces essaient de faire monter quand même leurs industriels, parce qu'elles sont notées, elles ont des indicateurs de performance, simplement, elles sont notées sur leur croissance. Faire venir des industriels, c'est beaucoup de croissance. Donc le gouvernement essaye de faire monter ça et de contrôler un peu ça. Il y a des projets industriels, par exemple, en périphérie de Jiangsu, je sais, qui ont été annulés parce que ça prenait trop de terres arables. Or, le Henan, c'est quand même une grosse province agricole en Chine, et le gouvernement, il voit ça encore comme le basket, enfin le panier de pain, le grenier, voilà.
Merci beaucoup Enguerrand Armanet. Vos reportages en Chine à Jiangsu sont à retrouver sur le site du journal Le Figaro. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de Terrain.
Merci à vous.
L'obscurité qui nous oppresse, c'est le titre d'un extrait du premier album du groupe chinois Omnipotent Youth Society, sorti en 2010 et qui décrivait les réactions de la société chinoise face aux bouleversements industriels et urbains. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission actu du vendredi, direction à présent le Japon.